Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical. En cette période estivale, nous allons parler mariage avec un invité ce dimanche matin pour l'émission Tendance Confidence. Et cet invité est Pierre-Marie Castaños, auteur aux éditions Salvator de ce livre « Se marier et durer ». Et je peux lire en quatrième de couverture « Qu'est-ce qui peut faire durer l'amour ? Est-il possible de s'aimer ?» toute une vie, comment traverser les épreuves, est-il possible de pardonner, quelle place accorder à la foi dans notre couple, autant de thèmes que vous abordez, que nous allons aborder pour certains dans cette émission. Pierre-Marie Castaños, est-il plus difficile aujourd'hui de s'engager dans le mariage plutôt qu'hier ?
C'est vrai, la notion d'engagement aujourd'hui est plus malmenée que par le passé, c'est sûr. Maintenant, je crois que cet engagement-là, il se travaille. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui demande une vraie détermination de la volonté. Et là aussi, je me permets d'interpeller aussi les uns les autres. On confond souvent l'amour et le sentiment amoureux. C'est-à-dire, le sentiment amoureux, c'est de l'ordre de l'émotionnel, du sentiment, des émotions, de ce qu'on peut vivre, etc. L'émotionnel n'est pas toujours en rendez-vous. Dans la relation aussi avec Dieu, on n'a pas toujours un émotionnel complètement dilaté, mais l'amour c'est un acte de la volonté, c'est-à-dire c'est vraiment un acte qui va faire que je vais m'engager. Et cet engagement, je sais que dans cet engagement est compris un certain nombre de difficultés, mais c'est pas parce qu'il y a une difficulté que c'est impossible à vivre ensemble.
Puisque vous avez été aumônier de prison en Argentine pendant 10 ans, est-ce que de fait la vie de couple, la vie familiale devient quelque part un monde carcéral où on a l'impression d'être enfermé et où la liberté ne semble plus être la première des valeurs vécues?
Et alors c'est souvent, on se dit voilà, on se passe les menottes en se mariant, voilà, et souvent parfois on fait de l'humour à ce sujet. Je crois que au contraire, être libre, c'est poser des actes de liberté. Et chaque engagement, c'est un acte de liberté. Il n'y a pas de liberté en soi. Vous voyez, ce serait mal comprendre la liberté que de dire, voilà, une liberté sans condition. D'abord, on a une condition humaine. D'abord, on a un corps. On est dans une époque. On a un sexe. On a une famille. C'est tout ça qu'on n'a pas choisi. Notre liberté, forcément, elle a un certain nombre de conditionnements. Mais nous pensons que les choix que nous posons nous permettent d'aller au-delà de ces conditionnements, d'abord, et d'exercer de la liberté, d'exercer notre capacité d'engagement, dont le synonyme est capacité d'aimer, parce que c'est tout à fait en lien, donc comme pratiquement synonyme. Et je crois qu'aujourd'hui, le mariage, au contraire, je crois que vécu comme une école de liberté, parce qu'il n'y a plus de pression au niveau de la société, ce qui est heureux pour se marier, comme il peut y avoir au 19e ou début 20e, ou les gens qui vivaient ensemble sans être mariés, voilà, qu'est-ce que c'est cette histoire-là. Aujourd'hui, c'est un choix des jeunes. Ils disent, voilà, nous voulons nous inscrire dans une démarche spirituelle, et ça aussi, c'est un engagement libre, et c'est même une des conditions, et si le prêtre voit qu'il n'y a pas une liberté ou qu'il y a trop de pression, ben écoutez, non, peut mettre une réserve ou dire carrément, écoutez, on préfère ne pas poursuivre dans cette direction.
Dans une précédente émission, donc, nous avons parlé avec vous de l'engagement qui existe aussi par rapport à ce mariage civil. Nous avons parlé aussi de la complémentarité avec le mariage religieux et sa dimension sacramentelle. Nous avons aussi parlé des 4 piliers du mariage, à savoir la liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité. Et vous aviez dit dans cette précédente émission que c'est le mot liberté qui posait le plus de difficultés.
Oui, parce que les jeunes s'engagent sans prendre conscience de tout ce que ça implique. Ils se mettent assez facilement ensemble, mais vous savez, partager une vie commune, bah c'est parfois partager aussi de l'argent ensemble, c'est partager l'union des corps, et le corps engage, c'est comme disait Jean-Paul II, c'est le langage le plus fort, c'est partager aussi les amitiés, c'est faire que les familles se rencontrent, tout ça c'est pas anodin. Bien sûr qu'on s'aime, on veut vivre ensemble, c'est même un des signes de l'amour, mais on ne prend pas conscience qu'il y a un temps de discernement, un temps de distance. L'amour demande la distance. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre parce qu'on voit l'amour, au contraire, dans l'émotionnel et le fusionnel. L'amour demande une certaine distance pour que je sois moi et que tu sois toi, que chacun soit vraiment ce qu'il est et se donne librement. Et aujourd'hui, on va trop vite. Je trouve que notre société est un peu lisse dans le sens où il y a manque d'étapes. Les grandes étapes, c'est le bac, c'est le permis de conduire, c'est le premier emploi. Bon, il y a quelques étapes. Avant, il y avait le service militaire, mais je trouve que c'est important de respecter un certain nombre d'étapes qui sont au service de l'amour. Et je trouve que dans le mariage, autant pour le prêtre ou le religieux, il y a beaucoup d'étapes pour qu'il le conduise à son engagement, mais pour le mariage, il y en a une, c'est les fiançailles. Et moi, j'y suis vraiment attaché à ces fiançailles.
C'est vrai que nous voyons plus beaucoup aujourd'hui les fiançailles qui précèdent le sacrement mariage, alors que ça peut être une étape importante aussi dans la continuité de ce discernement pour savoir si de fait le sacrement mariage va être vécu un jour. C'est une étape importante.
Pour moi, c'est une étape importante parce que on dit aux hommes, à la société, on se dit devant Dieu, ben voilà, nous pensons en tout cas cheminer vers le mariage. Si en tout cas, le discernement conduit à ça, bien sûr, il y a toujours une liberté, il n'y a pas d'engagement dans les fiançailles. C'est simplement un acte à la fois spirituel. On demande la bénédiction du prêtre dans une petite célébration intime pour dire, ben voilà, on a besoin de l'aide du Seigneur pour cheminer. Et en même temps, ben, au niveau social, on dit, je ne te présente pas mon ami, ma copine, non, mon fiancé, ma fiancée. Du coup, on dit aussi aux hommes, nous cheminons ensemble vers le mariage. Et je crois que cette dimension de société est aussi importante.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que de fait, on peut imaginer qu'il y ait donc l'étape des fiançailles, ensuite il y aurait éventuellement le mariage civil qui pourrait avoir lieu après, et puis qu'on en pourrait avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans après le sacrement de mariage ?
Ben, pourquoi pas ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont besoin de plus de temps. Passer tout de suite à un engagement pour la vie en quelques mois, j'interroge mon église en disant, est-ce que nous sommes sérieux ? En donnant le sacrement à des personnes qui n'ont peut-être pas eu ce temps de discernement, ce temps de cheminement, qui remettent un pied dans l'église après des années d'absence, et on leur colle, entre guillemets, sur les épaules cet engagement auquel je crois. Mais moi, j'ai eu 8 ans pour me préparer au sacerdoce. Et je dis, nous, comme église, on doit aussi être sérieux d'avoir ces propositions. Écoutez, on vous propose les fiançailles, on vous propose le mariage civil, et peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bah, cheminer et on verra.
Ne pensez-vous pas que nous confondons parfois 2 auxiliaires de vie qui sont pourtant importants pour écrire de belles phrases? Ces 2 auxiliaires, nous les connaissons, avoir et être. Est-ce que ne pensez pas que aujourd'hui nous sommes aussi regardés sur ce que nous avons et pas forcément sur ce que nous sommes? Nous sommes parfois aimés pour ce que nous faisons et pas pour ce que nous sommes.
Oui, c'est vrai. Quels sont les motifs? Ça, c'est toujours un sujet que j'ai d'interrogation. Quels sont les motifs du choix de mon fiancé, de ma fille? Pourquoi je l'ai choisi, au fond? Et c'est qu'après plusieurs années, que parfois même de vie matrimoniale, on se rend compte, voilà ce qui m'a attiré chez lui, chez elle. Et bon, ça peut être aussi de façon inconsciente, parfois le statut social, ça peut être la sécurité financière, mais c'est inconscient, c'est inconscient. Et je me souviens de cette femme, par exemple, qui avait épousé un militaire, et le militaire, comme ça arrive beaucoup, part dans la vie civile, crise matrimoniale. Elle avait épousé les galons, mais elle s'en était pas rendue compte. Oui, elle était pleine de bonne volonté. Elle a pris conscience. Oui, elle n'avait pas épousé vraiment lui en tant que lui. Elle avait épousé les galons.
Elle avait épousé l'uniforme.
Elle avait épousé l'uniforme. L'a épousé. Alors lui, bien sûr. Et du coup, elle a dû rechoisir, refaire tout un chemin pour dire voilà, c'est vraiment cette personne avec laquelle je veux faire ma vie.
Pierre-Marie Castagnos, nous vous retrouvons dans quelques instants sur Tendance Ouest.
C'est Tendance Confidence sur Tendance Ouest.
Et suite de votre magazine Tendance Confidence, aujourd'hui nous parlons mariage avec Pierre-Marie Castagnos, auteur de ce livre « Se marier et durer ». Lorsqu'il y a une dimension spirituelle par rapport à cet engagement du mariage, qu'est-ce que cette dimension peut apporter au couple ?
Je crois que la vie spirituelle interroge le couple de dire comment est-ce que le couple se présente dans sa vie de foi. Déjà, peut-être l'autre n'a pas reçu d'éducation chrétienne d'abord, peut-être n'est pas baptisé, ça arrive de plus en plus fréquemment quand même. Et puis l'autre n'a pas forcément le même désir de construire au niveau spirituel. Et donc du coup, je crois que il faut que celui qui est peut-être moins croyant rende possible la vie de foi de son conjoint. De même que le conjoint qui est plus impliqué, ben voilà, il faut pas que Dieu apparaisse comme un compétiteur. Ça, c'est aussi une bombe à retardement. Le couple ne s'est pas construit de façon paisible, n'a pas mis le curseur au bon endroit au niveau de la vie de foi.
Une question qui peut apparaître tout à fait à la fois naturelle, un peu simpliste, et pourtant, elle n'a rien de simple. Qu'est-ce qu'aimer ?
Pour faire peut-être simple, c'est rentrer dans une logique de don à l'autre et d'accueil de l'autre, et d'accueil de soi-même, parce qu'il y a un amour aussi envers soi-même. Vous savez, tous les manques d'amour envers soi-même rejaillissent dans la vie matrimoniale. les manques d'accueil de soi-même, les regards négatifs sur son propre corps, sur sa propre histoire, les blessures personnelles rejaillissent.
Et si on a pas... En même temps, ça peut être, comme dirait Stéphane Bern, le bal des égaux, et moi, et moi, et moi, et l'autre après. Hein.
C'est vrai, mais il faut trouver un équilibre. C'est un amour pour soi-même qui n'est pas un égoïsme.
Quand on dit donner et recevoir, ça ne veut pas dire recevoir une droite évangélique, si vous me permettez. Voilà, parce que nous pouvons aussi parler de cela, hein, Pierre-Marie Castagnos, de la violence au sein des couples. Et elle peut être verbale, elle peut être physique. Hein.
Elle peut être physique, malheureusement. Il y a beaucoup d'études à ce sujet qui montrent que la violence matrimoniale, quels que soient les milieux, ce n'est pas l'apanage de milieux, ça peut être plus en difficulté, en précarité, des milieux très installés, etc. Ça, par exemple, vous voyez, une question comme ça, s'il y a des jeunes, et dès les fiançailles ou avant le mariage, il y a eu des gestes de violence, des paroles de violence, etc. Moi, je dis tout de suite, stop, j'allume les warnings. Tout de suite, j'allume les warnings, je mets le frein à main. C'est-à-dire que on ne peut pas continuer. Il faut que le couple prenne ses marques, que chacun prenne une distance. On ne peut pas construire un couple sur la violence. Et beaucoup, et là aussi je me permets d'insister lourdement, certains diront « ça va s'arranger ». Faux, ça va pas s'arranger. Je me rappelle tiens, une personne qui disait « ah ben bon, ben celui-là il est comme ça, mais bon ». Comme tout était organisé pour le mariage, encore une fois, tout était payé, on avait payé la salle, on avait payé le traiteur, etc. Et puis vous voyez bien qu'il y avait des problèmes, que la manière de se parler, il n'était pas gentil avec elle, il a parfois humilié devant les autres, etc. Bon, il y a des blagues un peu salaces, etc. Bon, mais bon, ça va s'arranger. Faux. Ça va s'empirer. La vie ensemble va ne faire qu'accentuer les difficultés. S'il y a déjà de la violence avant le mariage, c'est le signe qu'il faut mettre une distance entre les deux pour un bon discernement.
Peut-on tout pardonner? Parce qu'on vient de parler de violence, là. On a parlé de don, de gratuité tout à l'heure par rapport à l'amour. C'est-à-dire que l'amour ne s'achète pas. C'est comme l'amitié, comme la confiance. Ça ne s'achète pas. C'est de la gratuité. Et alors, pouvons-nous tout pardonner quand on voit combien l'homme peut se donner du mal à se faire du mal?
En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que si l'on n'ouvre pas la porte au pardon, on n'ouvre pas la porte à l'amour. Et donc, on n'ouvre pas la porte à une capacité de durer dans le couple. Ça, je crois que c'est très clair. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que la vie ensemble est impossible. Et c'est là aussi, je veux dire, je m'adressais aux couples et aux jeunes. C'est pas parce que c'est difficile que l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre. D'abord. C'est pas parce que c'est difficile que, bon, mais il faut pas rester que dans la difficulté, il faut aussi des bons moments et surtout il faut rentrer dans une dimension de pardon. C'est-à-dire de nous apaiser parce que la souffrance, évidemment, développe en nous une sorte de violence, soit contre nous-mêmes, soit contre l'autre, au moins dans la pensée, dans tout un monde de ténèbres en nous qui s'agite à ce moment-là. Je crois que là, on n'en parle pas suffisamment de dire que la vie ensemble, la vie matrimoniale, la vie de couple, demande que parfois on se pardonne. Hein, ne te couche pas, c'est dans l'écriture, ne te couche pas sur ta colère. Voilà. Vous voyez, on met sous l'oreiller, on entasse. Puis à un moment donné, on n'en peut plus et on dit, voilà, la solution, c'est de se séparer. Si à chaque fois, on aurait dit, écoute, non, là, cette attitude avec ta famille, cette attitude avec cet enfant, ça ne va pas. On ne se serait parlé en vérité, ce qu'on appelle devoir de s'asseoir dans certains mouvements. On s'assoit et on se dit les choses. Eh bien, les couples dureraient bien plus.
Ne pas enfermer l'autre dans une erreur.
Ne pas enfermer l'autre dans une liste de défauts. Les toujours et les jamais. Ça c'est vraiment des bombardements. Toujours et jamais. Quand on vous dit toujours et jamais, il faut tout de suite allouer les warnings. Parce que c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Nous ne sommes pas réduits. On va pas être toujours comme ça. On a eu des moments où on a peut-être menti, on a eu des moments de colère, on a eu des moments de paresse, on a eu des moments d'égoïsme, on a eu des moments... Mais nous ne sommes pas toujours égoïstes. Donc ça, parce que le couple ne se parle pas. Il ne prend pas le temps de se parler. Et ça, j'invite les couples, en tout cas les couples chrétiens et non chrétiens, mais ceux qui sont dans un cheminement de foi, je les invite vraiment à s'adosser. Aujourd'hui, on a besoin de rampes. Les couples ont besoin de rampes pour tenir. C'est moins facile qu'avant parce que c'est moins porté par la société. Il y a des tas de mouvements qui existent dans l'Église, Vivre et Aimer, par exemple, Équipe Notre-Dame, des mouvements, des groupes de paroisse, etc. Bon, il y a des tas de choses qui existent dans l'Église. Ben, frappez à la porte de la paroisse, renseignez-vous, parce que ce sera autant de moyens que vous prendrez pour que votre couple dure.
Exercice pratique pour terminer cette émission de ce dimanche matin, Tendance Confidence avec Pierre-Marie Castagnos, donc qui est prêtre et religieux. Vous avez aussi accompagné de nombreux couples vers le mariage. Et justement, un couple qui vient sonner à votre porte, nous aimerions nous marier. Qu'est-ce que vous leur proposez comme préparation?
Alors, je leur propose un parcours De préférence sur un an, un petit peu moins s'ils peuvent. En tout cas, c'est pas en 3 semaines qu'on va préparer. Que préparer un mariage, c'est pas préparer une célébration. Il faut pas confondre les choses. Préparer un mariage, c'est comme on l'a dit, on en prend pour 50 ans. Donc, on prépare 50 ans de vie commune. Et donc, ce que je leur propose, c'est d'abord de revisiter leur propre expérience, comment ils sont passés de l'état de célibataire à l'état de couple, qu'est-ce que ça a changé en eux. Ensuite, comment de revisiter aussi leur rapport avec leur famille. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui portent des souffrances dans leur famille parce qu'il y a eu des séparations, parce que il y a peut-être pas d'acceptation aussi de mon futur conjoint par ma propre famille, parce que voilà, il avait d'autres idées, on plaque toujours nos idées sur les autres. Et puis ensuite, on fait tout un cheminement, comment la place du travail, la place de l'argent, la place de la famille, la place du pardon, la place de la spiritualité, de la sexualité, des enfants. Bon, j'encourage en tout cas les confrères prêtres et les laïcs aussi à se lancer dans la préparation au mariage. Et je crois que nous, on est là pour leur donner des outils pour durer.
Le mot qui est un verbe, le verbe aimer, une définition.
Bah, aimer, c'est tout donner, hein, disait la petite Thérèse. Et aimer, c'est à la fois pardonner, c'est beaucoup de choses. Aimer, c'est accueillir. Aimer, c'est rentrer dans une logique de don. Voilà, donc je crois que cet amour-là, aimer, c'est travailler sur soi-même. C'est aussi voir nos incapacités d'aimer. Tout ça est appelé à grandir en nous et à cheminer pour aller de chaque fois plus dans une communion avec l'autre.
Merci Pierre-Marie Castagnos.
Merci à vous.
Dans quelques instants, votre journal de 9h proposé par la rédaction de Tendance Ouest. Je vous souhaite un bel été si vous avez la chance d'être en vacances, en tout cas si vous travaillez. Bon courage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain avec d'autres invités.